Allons-y les enfants, suivons-le.
What's your message to world leaders today?
How dare you?
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Ce soir, c'est Culture Poub qui vous parle et qui vous parle cette fois en direct du studio puisque nous sommes enfin déconfinés à la radio. Et donc ce soir, notre émission va être plutôt conviviale, consacrée à l'anti-pub. Une émission conviviale, familiale, puisque j'ai le plaisir d'accueillir autour de moi mes camarades de l'anti-pub avec donc Benoît. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Tiki.
Bonsoir.
Tanguy aussi à la régie. Et un peu plus tard, nous accueillerons donc Renaud au téléphone. Ce soir, c'est une émission un petit peu particulière puisqu'on s'adresse à vous sur les ondes. On s'adresse aussi à vous en live Facebook. Donc, c'est les camarades de l'Antipub, donc Résistance à l'agression publicitaire. J'ai oublié évidemment de nommer l'association dont nous faisons tous et toutes partie. Et on vous parle depuis la radio, on vous parle depuis Facebook et surtout vous êtes invités à nous téléphoner pour nous poser des questions ou pour éventuellement aussi en savoir plus sur l'asso ou pour prendre part à la discussion. Donc le numéro de téléphone de la radio, c'est le 01 40 05 06 10, 01 40 05 06 10. Vous pouvez téléphoner et poser vos questions en direct si vous avez envie. Donc, pour cette soirée un petit peu spéciale, eh bien, on va faire le point ensemble sur l'actualité de la lutte anti-pub. Une actu, pour le coup, assez chargée, avec la sortie donc, récente ou très prochaine de plusieurs rapports consacrés à différents enjeux sociaux de la publicité, liés à la publicité, notamment donc, au rapport entre publicité et climat, ou en tout cas entre publicité et écologie, les rapports entre publicité et débat démocratique, et puis les rapports entre publicité et sexisme, avec donc la publication prochaine d'un rapport sur le publisexisme, c'est-à-dire le sexisme dans la publicité. Donc on va y venir, on va venir progressivement sur tous ces points, et on fera aussi le point sur les municipales, hein, puisque dans quelques jours, les Parisiens, les Parisiennes, et puis tous les Français, Françaises, bien sûr, seront appelés à élire leur équipe municipale. Et donc, une des premières questions qui se posent, ou en tout cas les questions les plus urgentes peut-être en termes d'actualité, c'est cette question de la place de la publicité dans le débat municipal. Est-ce que les candidats traitent de publicité? Est-ce qu'ils ont conscience, ou en tout cas, est-ce qu'ils verbalisent ce problème de l'espace public, l'espace qu'ils laissent à la publicité, puisque une bonne partie des publicités que nous recevons est lié au règlement local de publicité, c'est-à-dire le droit municipal d'utiliser l'espace public et éventuellement d'ailleurs du mobilier public pour mettre des publicités. Donc il n'y a pas que les transports en commun, il n'y a pas que les bus ou les stations de métro qui véhiculent de la publicité. Il y a aussi les abéribus, ce qu'on appelle les sucettes, donc des affichages, des panneaux qu'on voit dans la rue et qui nous envoient une bonne masse de publicité. Et donc, est-ce que les candidats ont quelque chose à proposer à ce sujet? En tout cas, nous, à RAP, Résistance à l'agression publicitaire, on a essayé de les interpeller. Et pour en parler, donc, je vais passer la parole à Benoît, qui fait aussi partie de l'association RAP. Donc, Benoît, ce dimanche, c'est les municipales. Est-ce que des candidats et des candidates à Paris se sont engagés sur la question de la publicité et de son usage de l'espace public?
Oui. Alors, un RAP, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'essayer de les forcer à prendre position. Et donc, du coup, pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a épluché les programmes et en même temps, on leur a envoyé des questionnaires dédiés. Et ce qui s'est passé à Paris, c'est ce qui se passe à peu près de la même manière dans toutes les autres villes où RAP a envoyé des questionnaires. C'est-à-dire que les seuls qui répondent, c'est ceux qui sont déjà intéressés. Ceux qui sont intéressés par la publicité et qui en parlent, c'est la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Et donc, c'est des gens qui répondent globalement au questionnaire. On est d'accord avec vous, il faut aller plus loin. Mais toutes les autres listes, les Républicains, La République En Marche et beaucoup d'autres listes, ne disent rien, ni dans leur programme, ni ne répondent. Donc on est obligé de spéculer, se dire, bah, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ça. Et donc là, aujourd'hui, dans la, ce qui reste en lice dans l'élection à Paris, c'est donc Dati pour LR, Buzyn pour LREM et Hidalgo pour le PS qui a fait fusion avec la liste d'Europe Écologie Les Verts. Et donc ces trois listes, dans ces trois listes-là, ce sont des muets. C'est des gens qui ne disent absolument rien sur la publicité.
Personne des trois candidats, en l'occurrence, n'a répondu au questionnaire que proposez-vous en termes de publicité.
Voilà, c'est des gens qui n'en parlent pas dans leur programme et ne répondent pas au questionnaire. Donc on est obligé de se dire, bah, qu'est-ce qu'ils font dans les autres villes qu'ils dirigent par rapport à la publicité. Et c'est des forces politiques qui sont traditionnellement favorables à la publicité. Pour LR, c'est assez clair, on a du recul. Pour LREM, c'est moins évident, mais bon, on voit un petit peu comment c'est la politique vis-à-vis de la publicité avec Macron. Pour Hidalgo, c'est un peu plus compliqué.
Alors justement, puisque bon, on est Fréquence Paris plurielle, donc on va parler un petit peu d'abord de Paris. Hidalgo, mairesse sortante, partie pour être dans la course, dans le top 3. Qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Tu disais tout à l'heure que EELV faisait partie quand même des forces qui avaient répondu. Or, ils sont en alliance Hidalgo-Béliard, donc PS-EELV. Est-ce qu'on peut déduire de cette alliance un certain nombre de propositions ou est-ce que c'est encore le silence radio?
Alors, Hidalgo, c'est quelqu'un qui ne parle pas de publicité. Nous, à RAP, on essaie de traquer un petit peu les moments où elle va dire quelque chose. Et là, il s'est passé quelque chose dans le dernier live de cette semaine. Elle a dit quelque chose. Alors, je vais vous le dire, parce que c'est quand même très rare, une parole d'Hidalgo sur la publicité. Elle dit « Il faut réduire la publicité. C'est très bien que la Convention citoyenne pour le climat en parle. Ça veut dire qu'il faut aller vers d'autres modèles économiques. » Souvent, dans nos discussions avec David Béliard, je disais, je suis à fond pour qu'on réduise la publicité. J'ai juste besoin de trouver les ressources que cette publicité apporte à la ville. Et plus loin, elle dit, je pense que ce sont des pollutions visuelles et qu'il faut réduire de façon importante. En tout cas, ça fait partie des engagements que nous avons pris ensemble.
Fin de citation.
Voilà. Donc, voilà, c'est assez clair. On est content, au moins, on a quelque chose sur lequel s'appuyer. Elle dit qu'elle parle de pollution visuelle et que c'est quelque chose qu'il faut réduire. Mais après, la question, c'est est-ce que c'est cohérent avec le mandat qu'elle vient d'effectuer? Et la réponse, c'est non. Hidalgo, nous, à RAP, enfin, Résistance à l'agression publicitaire Paris, on la connaît bien. On s'est pas mal battu sur plusieurs sujets. Le premier, c'est qu'elle a, avec son équipe, renouvelé tous les contrats publicitaires. Donc, tu en parlais, les kiosques, les abris voyageurs qui sont les abribus, les colonnes Maurice, et le plus gros contrat, qui est le contrat des sucettes publicitaires. Elle les a tous renouvelés pour des durées qui sont extrêmement longues.
Donc, qui engage son prochain mandat éventuel, donc?
Non, même pas. Qui engage au-delà de ce mandat-là.
En termes de durée, ok.
Voilà. Donc, dans le mandat qui arrive, on ne peut rien faire. Sauf pour les sucettes publicitaires. Et donc, il y a eu la tentative d'introduire les écrans numériques dans ce contrat-là. Ce qui a été refusé, puisque ça ne faisait pas partie de ce qui était prévu par le règlement local de publicité. Donc, à RAP, on a fait du plaidoyer pour dire ce n'est pas possible. Et donc, finalement, la justice a tranché, on ne pouvait pas mettre d'écran numérique. À la suite de quoi, elle a proposé de, bien sûr, changer le règlement local de publicité, ce sur quoi des forces politiques et dont RAP s'est mobilisée pour, notamment sur la consultation publique pour dire on ne veut pas de ces écrans. Et tout ça a capoté, et donc voilà, c'est remis sur la table. Le règlement local de publicité va être revu par la prochaine mandature.
Donc le statut des écrans numériques est en quelque sorte encore en suspens. On n'est pas encore sûr de ce qui va se passer pour les écrans numériques. Il y a moyen de lutter sur la question, en gros.
Voilà, la prochaine équipe municipale doit faire un règlement local de publicité, et donc on attend impatiemment des positionnements des partis là-dessus. Et donc tu le disais, il y a eu une fusion de listes. Donc Hidalgo dit rien, mais les Verts, ils avaient quand même proposé d'avoir absolument de supprimer toute la publicité dans l'espace public. C'est assez intéressant. Et donc, on a eu des petites communications de la part d'Hidalgo et Béliard qui ont dit, on va faire une régie de publicité. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, donc on attend. Et la deuxième annonce, c'est quand même, on va maintenir l'interdiction des écrans publicitaires.
Donc ça, c'est l'engagement des Verts pour Paris, sur les écrans numériques.
Et d'Hidalgo. Ils ont un engagement qu'ils ont pris ensemble et ils se présentent devant les électeurs avec cette proposition-là. Et ensuite, elle nous dit, donc là on a eu cette citation qui nous dit « Il faut réduire la place de la publicité. c'est très intéressant, sauf qu'elle a signé des contrats qui sont extrêmement longs, et donc, grosso modo, on ne peut rien faire dans les 6 prochaines années, sauf à défaire les contrats, au risque d'avoir des grosses pénalités financières, donc ce n'est pas très intéressant. Et donc, le seul contrat qui va être remis en jeu, c'est les fameux sucettes publicitaires. Et donc, bah là, on a envie de voir si elle va joindre la parole aux actes, sachant qu'elle nous dit que l'enjeu pour elle, c'est d'avoir des ressources qui compensent. Donc, c'est un contrat qui rapporte 34 millions par an, sachant que les ressources annuelles de la ville de Paris, c'est 8,5 milliards. Donc, on est en dessous de 0,5% des recettes. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à trouver 0,5% pour supprimer ces publicités ou leur volonté politique va s'arrêter là ? C'est un petit peu la question qu'on a envie de poser.
J'ajoute, hein, pour faire encore, on va dire, des comparatifs de chiffres, 30 millions, c'est la candidature au JO. C'est ce que nous coûte, ce que coûte à Paris la candidature au JO. Donc, petite suggestion à Anne Hidalgo et à son équipe, si vous nous écoutez, hein, vous pourriez abandonner les JO. Et puis vous trouverez ce pognon-là et vous nous libériez de la pub, puisqu'il ne faut pas oublier quand même les JO, ça va être sans doute, s'ils ont lieu et s'ils ont lieu à temps, ce sera sans doute une excuse pour mettre plus d'écrans et vendre un peu plus d'espace public. Rapidement, sur cette question encore des municipales, Benoît, qu'est-ce qu'on sait des autres villes françaises ? Peut-être aussi, y a-t-il des villes qui se démarquent dans la lutte anti-pub ? Y a-t-il des candidats ou des candidates qui ont fait des promesses un peu plus ambitieuses et dont on pourrait s'inspirer pour inspirer nos candidats à nous ?
La première ville à laquelle on pense quand on pense à publicité, c'est Grenoble, qui, du fait des dernières élections, a supprimé la publicité dans l'espace public, alors dans des grandes proportions. Donc voilà, là on espère, enfin normalement, il est proposé de rester sur ce niveau-là à Grenoble. Et dans les autres grandes villes, alors je n'ai malheureusement pas toutes les villes en tête, mais c'est dans les villes où soit Europe Écologie Les Verts, soit LFI sont au second tour. C'est vraiment c'est les deux forces politiques qui, nationalement, ont dit quelque chose sur la publicité, ont vraiment eu cette volonté de réduire la place de la publicité. Donc, par exemple, à Lyon, où Europe Écologie Les Verts s'est maintenue, ou à Lille, on attend que des forces politiques qui ont proposé de réduire la publicité soient encore en lice. Donc, on espère que ça sera suivi des faits.
On espère que le message passe. En tout cas, si jamais vous nous écoutez et que vous habitez dans des villes dans lesquelles il se passe quelque chose en termes de publicité, surtout, n'hésitez pas à nous appeler. Je répète le numéro 01 40 05 06 10. N'hésitez pas à prendre la parole sur l'anti-pub pour en savoir plus sur l'association qu'on représente. Donc, je répète, résistance à l'agression publicitaire. Merci Benoît pour cette question des municipales. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, peut-être, à ce propos ?
Non.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Du coup, on va passer la parole à notre invitée et camarade suivante, qui est Tiki. Bonsoir, Tiki.
Bonsoir.
Tiki, on bosse à RAP sur une question qui nous tient à cœur et qui est une grosse partie, malheureusement, de la lutte anti-pub, à savoir la question du sexisme en général, mais dans la publicité en particulier. Tiki, toi, tu as lancé dans l'association un projet, l'Observatoire de la publicité sexiste. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire quels sont les travaux en cours ?
Alors, le projet, j'ai contribué à le lancer, mais effectivement, il n'est pas de moi uniquement. Initialement, il a été lancé suite à une rencontre nationale de l'association RAP en 2018. Donc, c'est une idée qui a émergé comme ça, différents ateliers de réflexion qui ont eu lieu et donc qui ont émergé des militants et des militantes. Dans le but de s'attaquer enfin à un des gros sujets, comme tu l'as dit, le sexisme dans la publicité. Et donc l'idée qui est sortie, c'était de mettre à disposition une plateforme en ligne où chaque personne pourrait venir soumettre des publicités sexistes qui l'auraient choqué un peu dans la vie de tous les jours, comme on en croise un peu partout, et dire pourquoi aussi elle considère que ces pubs sont offensantes, car sexistes. L'idée, c'était aussi de pouvoir faire une sorte de grand recensement avec ça. Et donc qui pourrait permettre de faire un état des lieux du publisexisme en France, également de décrypter un peu en analysant quelles sont les pratiques, les codes des publicitaires sur les questions de sexisme, et aussi identifier quels sont les secteurs les plus concernés. Et donc Le travail s'est étendu sur un an. Donc, on a lancé l'OPS, l'Observatoire de la publicité sexiste, le 25 mars 2019, qui est la journée mondiale de l'antipub, au passage. Et donc, sur un an, l'idée aussi d'avoir une année, c'était de pouvoir avoir un petit peu toutes les périodes où on a un pic, on va dire, de publicité sexiste, la Saint-Valentin, la fête des mères, etc. Donc là, l'année s'est écoulée et l'idée, c'est de faire un rapport là-dessus, pour pouvoir avoir des outils un peu plus concrets et spécifiques à mettre en avant.
Et justement, donc ce rapport, il est en cours d'écriture, mais est-ce que tu pourrais déjà nous dire quels sont les premiers résultats, qu'est-ce qui se démarque, quels sont les secteurs les plus concernés, quels sont les types de propos, de stéréotypes, d'injonctions qui reviennent le plus à l'attention des femmes ou des hommes par rapport aux femmes?
Ouais. Alors effectivement, il est en cours d'écriture. Donc là, pour le moment, c'est quelques petites bribes de résultats qu'on a commencé à sortir. On a reçu plus de 100 contributions, donc ce qui est quand même pas mal pour une première édition. Parmi lesquelles, voilà, certaines marques, certaines pubs sont revenues plusieurs fois parce que clairement, c'est des choses qui ont choqué. Typiquement, la campagne de pub du temps des cerises, liberté, égalité, beau fessier, voilà, ça s'est ressorti plusieurs fois, par exemple. Mais de manière générale, on a vu qu'en termes de secteur, le secteur de l'habillement et de la parfumerie et le secteur de l'hygiène et de la beauté représentaient en gros les secteurs les plus concernés. C'est plus de 50% des contributions qui sont sur ce secteur-là. On a vu aussi que c'était l'affichage extérieur, en fait, qui était perçu comme agressif, on va dire. C'est 80% des contributions qui nous sont arrivées.
C'est-à-dire des publicités qui sont dans la rue ou dans le métro,
exactement.
Et plutôt que dans les médias type journaux ou télé.
Ou internet, etc. Ouais. Mais parce que, en fait, dans la rue, on choisit pas vraiment ce qu'on reçoit. Voilà, on n'a pas vraiment la liberté de réception. On doit aller à un point A, un point B. Et voilà, si sur le passage il y a des pubs, bon, bah, qu'on veuille les voir ou pas, en général, en plus, c'est bien fait pour attirer le regard, donc on n'y coupe pas. Après, en termes de pratique, la pratique la plus courante qui est ressortie, c'est la sexualisation du corps des femmes, sans très grande surprise, malheureusement. Et voilà, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par les positions des femmes, par exemple, à la penchée, un peu la bouche entrouverte, les vêtements, des nudés, décolletés, et aussi le cadrage. On a pas mal de pubs qui sont des pubs de ce qu'on appelle les femmes troncs. Les femmes troncs, c'est une photographie d'une femme sans son visage, donc totalement anonymisée, dépersonnifiée, entre guillemets. En général, l'image commence juste au-dessus de la bouche, parce que quand même, la bouche, il faut la montrer, c'est quand même un peu érotique, hein, apparemment.
Et plus ça que s'arrête, le nez.
Plus que le nez, voilà. Bon, je ne sais pas qui décide de ces critères-là, mais en tout cas, apparemment, c'est ça qui ressort. Et en général, voilà, ça ne va pas plus bas que le dessous des hanches, quoi. Donc ça c'est des pratiques. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait énormément de stéréotypes archaïques qui étaient reproduits. Typiquement, pour en citer qu'un, la femme au foyer. On va avoir beaucoup de pubs qui sont des pubs pour des services de l'aide à la personne, de garde d'enfants, de ménage, etc., qui vont être représentées par des femmes. Donc il y a ça. Et en fait, Ça pose, en fait, par la répétition, des injonctions aussi aux femmes, parce qu'en fait, l'injonction, par exemple, pour les femmes au foyer qui vont être toujours représentées, ça va être pour une femme de rester à la maison, par exemple. Voilà. C'est ce qu'on montre.
Travailler dans le domaine du soin.
C'est ce qui se fait, voilà, travailler dans le domaine du soin, etc. Et aussi d'autres types d'injonctions, parce que c'est toujours les mêmes corps qu'on montre, des corps maigres, des femmes belles, jeunes, etc. Et bien, ça va être cette injonction à la beauté, à la minceur, à l'épilation. Et soit dit au passage, c'est aussi toujours les mêmes corps qui ressortent. On a très rarement des personnes non valides, par exemple, qui sont représentées, des personnes non hétérosexuelles, des personnes racisées de plus en plus, mais souvent ça revient quand même dans des postures et des mises en scène un peu problématiques. On pense à la pub Durex qui avait fait un peu scandale par rapport à ça, où on voyait une femme qui posait la main sur la tête d'un homme, une femme blanche qui posait la main sur la tête d'un homme blanc, un peu en gardant comme
d'un
ça à distance.
Qui était noir,
je vais y arriver. Elle me choque trop, cette pub, en fait, j'arrive pas.
Ouais, elle a bien choqué.
Et voilà, avec le slogan « Oser être plus proche ». Donc bon, voilà, il y a quand même toujours des problématiques sur les représentations en général. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, c'est pas sans conséquence tout ça. Derrière, ça, c'est tout un imaginaire qu'on transmet, qu'on ingère, et ça crée des problématiques, des troubles psychologiques, alimentaires, l'anorexie, la boulimie. Ça renforce la culture du viol aussi. Quand on a des femmes qui sont dans des positions, on pense aux pubs Yves Saint Laurent, qui ont aussi fait l'objet, je crois, d'une quarantaine de plaintes. Où on voit des femmes, alors maigres à souhait, etc., dans des positions comme ça, penchées, moitié inconscientes. Voilà, c'est le genre de conséquences que ça peut avoir, et donc c'est ce qu'on dénonce.
Bah justement, tu parlais de plaintes à l'instant. Quels sont les recours face au sexisme publicitaire ? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel on a l'impression rien n'a changé depuis plus d'un siècle. C'est quelque chose de très ancien. Beaucoup de gens pensent qu'il y a une amélioration au niveau de la lutte pour l'égalité des sexes, mais typiquement la publicité, c'est toujours les mêmes clichés. Alors est-ce qu'il y a des recours ? Comment on fait quand on est choqué par une publicité sexiste et qu'on veut la dénoncer ? À part écrire à l'Observatoire de la publicité sexiste de rap, bien
par
sûr.
Par exemple, ça c'est une évidence. Et d'ailleurs, l'Observatoire est toujours actif, hein, même si on a fini la période de collecte sur un an, il est toujours actif. Il y a très peu de recours, en fait. Il y a très, très peu de recours. L'un des premiers recours, c'est auprès du JDP, donc qui est le jury de déontologie de la publicité, qui est une instance de l'ARPP, donc qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. En fait, c'est un groupement de publicitaires. Voilà, ce qui est, l'ARPP est administré par des publicitaires, donc ça va être les annonceurs, les afficheurs, les régies, les médias. Et donc cette instance-là est en charge de recevoir les différentes plaintes et de juger si, premièrement, elles sont recevables, deuxièmement, si elles sont fondées. Fondées au regard de quoi ? Des recommandations en fait, de la RPP vis-à-vis de l'image à la personne, voilà, pour être exact. Ça représente à peu près 50% des plaintes qui sont déposées au niveau du JDP. Donc c'est énorme. Et en fait, la seule sanction entre guillemets qu'il va y avoir, ça va être une communiqué, un avis sur le site de cette instance-là. Voilà, encore faut-il aller le voir et le lire. Et si jamais il y a manquement, ça sera un communiqué de presse. Encore faut-il qu'il soit repris. Et voilà, dans les cas les plus extrêmes, ça va être un encart dans la presse. Mais bon, là, c'est vraiment des choses qui arrivent de manière rarissime. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. Donc ça, c'est le premier recours auprès d'une instance qui, entre guillemets, jugée partie. Et le deuxième recours, qui est extrêmement rare, ça va être un recours auprès du maire ou de la maire de la municipalité. Donc ça concerne du coup uniquement les affichages extérieurs pour troubles à l'ordre public. Voilà, ça c'est aussi un recours. Et là, encore une fois, les sanctions, c'est quand même très limité. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas quoi que ce soit. Ça va être le retrait simple de l'affichage. Donc, il y a de la marge d'amélioration sur cette question-là, clairement.
Donc, très clairement, quand on ait une plainte pour une pub sexiste ou autre d'ailleurs, ou raciste, ou que sais-je, on ne peut que s'adresser à un organe qui est à la fois jugé parti, qui est fait par des publicitaires et dont les sanctions sont... Si elles ont lieu, ce n'est que de la pure communication, de la contre-communication, quoi. On dit telle pub a été condamnée parce qu'elle était sexiste, c'est tout.
Exactement. D'accord. Et dans des endroits où il faut aller chercher l'information pour la trouver.
D'accord. Donc clairement, effectivement, il y a quand même une grosse marge de progrès, comme tu disais. Est-ce que un début de l'Observatoire de la publicité sexiste ou de l'association Résistance à l'agression publicitaire, c'est aussi d'imaginer d'autres formes de régulation. Est-ce qu'il y a des revendications de ce point de vue-là ? Ou en tout cas, est-ce que l'Observatoire de la publicité sexiste tend vers des propositions pour endiguer ce phénomène qui est non seulement durable, mais en plus visiblement de pire en pire, en fait ?
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Le but, c'est ça. Hein. Il y a un but d'analyse, etc. Mais bien évidemment, c'est de venir avec des revendications sur la table. Alors là, il est encore un peu trop tôt pour poser des revendications claires et détaillées. On est encore dans le travail d'analyse. Voilà. Mais en tout cas... ce que je peux dire de manière assez sûre, c'est que les revendications seront tournées pour une sanction du publisexisme plus efficace et auprès d'instances ou par des mesures plus indépendantes, clairement.
Merci Tiki. Du coup, pour illustrer ses propos sur la publicité sexiste, puisqu'on disait que finalement, ce n'était pas un truc si ancien, je vous propose d'écouter un petit florilège de publicités radio et télé qui parcourt le XXe siècle, des publicités qu'on peut dire clairement sexistes.
Puma. Puma.
C'est quoi ça? Attends, bouge pas, je vais deviner. Mmh, c'est de la blanquette, ça, hein?
Oui.
Hein? C'est la première fois que t'en fais, non?
Mais il est bon, ton riz. Très bon. J'y colle pas. Bravo, mon minou.
Si un jour tu refais de la blanquette, remarque que t'es pas obligé, le riz, tu le fais pareil.
Riz lustre cru, incollable.
Il l'aime.
La femme n'est pas l'égale de l'homme. La cuisine, moi j'adore la faire. Qu'un homme m'offre des fleurs, des cadeaux, je trouve ça normal. J'adore la futilité. J'aime bien m'habiller, j'aime bien aller chez le coiffeur, j'aime bien être belle, j'aime bien mâcher des chaussures. Ça vous choque d'entendre ça aujourd'hui? Moi, ce qui me choque, c'est acheter des chaussures à n'importe quel prix. 55 francs.
55 francs chez Iram.
Imaginez un rasoir capable de sentir chaque nuance de votre visage. Voici l'extraordinaire Gillette Sensor, le nouveau système de rasage Gillette.
Gillette, la perfection masculine.
Les deux lames de Sensor sont montées individuellement sur des ressorts d'une sensibilité étonnante. Elles détectent en permanence les moindres courbes et détails de votre visage et s'y adaptent automatiquement.
Nous te guiderons à ta perfection.
L'extraordinaire Gillette Sensor pour un rasage de plus près. Un rasage plus doux et plus sûr que jamais. Pour un rasage parfait.
Pour qu'à chaque instant, ce soit toi. La perfection masculine.
Nouveau Gillette Sensor.
La perfection
masculine. Nous, les femmes, nous avons tendance à improviser quand nous ne trouvons pas de place de parking. Mais nous laissons toujours notre numéro de téléphone si nous trouvons un bout de papier. C'est pourquoi nouvelle Renault Twingo vous offre l'option « Désolé de m'être garé là ». Des petites cartes qui vous font passer pour une fille sympa même quand vous êtes mal garé. Rendez-vous sur newtwingo.be pour commander gratuitement vos petites cartes d'excuses.
Madame, c'est avec raison que vous utilisez un aspirateur pour purifier l'atmosphère de votre appartement. Ne croyez-vous pas qu'il soit au moins aussi indispensable de purifier votre sang et d'éliminer ainsi tous les vertiges, malaises et autres petits ennuis féminins? Vous y parviendrez en prenant vous aussi l'imitable jouvence de la baie souris.
La jouvence de la baie souris, en liquide, en pilule.
Le soleil vient de se lever, qui vient avec nous partager. C'est notre grand et sa fiancée, il est venu nous la présenter. Notre famille s'agrandit et la vie s'écrit avec lui. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré.
Puma. Puma.
De retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, vous écoutez Zoom Écologie présenté par Culture Pub. Et ce soir, c'est une émission consacrée à l'anti-pub, puisque nous sommes entre camarades de l'association Résistance à l'agression publicitaire. Et on parlait précédemment donc, de l'Observatoire de la publicité sexiste, qui est un programme de recherche, d'écriture de rapports, d'études de la publicité sexiste, mise en place par l'association RAP. Et donc, pour illustrer nos propos sur le sexisme publicitaire, eh bien, on vient de s'écouter un petit florilège de publicité télévisée ou radio qu'on peut dire sexiste. Hein, en vrac, vous avez reconnu Lustu Cru, Eram, Gillette, Renault. Renault, c'était une pub censurée hein, avec cette jeune demoiselle qui se garait très très mal et pour s'excuser, commençait à sortir une serviette hygiénique et un rouge à lèvres pour écrire « Désolée » sur son pare-brise. Et Renault a pensé à elle et lui vend des petites cartes avec écrit « Désolée de m'être garée là ». Donc un produit à la con, une pub à la con et un cliché à la con. Celle-là a été censurée. Il y avait aussi Jouvence de la Bessorie, une très vieille pub, et puis Ricoré, l'ami du petit déjeuner. Donc voilà, des exemples à travers le XXe siècle bon, qui nous rappellent évidemment que c'est à la fois très ancien et très proche, qu'il y a parfois des recours avec cette publicité censurée, mais comme on a vu avec Tiki, eh bien, ces recours sont insuffisants. Je crois, Benoît, tu voulais ajouter quelque chose sur cette question du publisexisme. Benoît qui nous a parlé tout à l'heure des municipales et des projets des candidats contre la pub.
Tout à fait. Oui, un petit point local Paris, puisque dans le dernier contrat des sucettes publicitaires, l'équipe sortante a fait mentionner que donc, le prestataire devait veiller à éviter les publicités sexistes et homophobes. Bon, alors là.
Raciste, non, ça ne l'a pas intéressé.
J'ai l'impression que c'était d'accord. Juste sexiste et homophobe pour l'instant. Et l'entité qui doit faire respecter ça, c'est le prestataire, donc Clear Channel. Donc on n'y est pas encore vraiment, mais là peut-être que leur idée de régie publicitaire municipale à l'échelle de la ville de Paris, en tout cas j'ai entendu Hidalgo en parler, dire que ça pouvait les aider à lutter contre ça. Donc peut-être qu'au niveau local, au niveau des municipalités, vu que on pourrait demander à inscrire peut-être des clauses comme ça pour lutter contre les publicités sexistes. Une ouais, piste peut-être
tout à fait,
avoir.
Tout à fait. À voir comment est constituée cette régie également.
Oui, non.
Et espérons que ce ne soient pas les mêmes écueils que la RPP qui du coup est jugée partie. Mais oui, effectivement, ça peut être intéressant de se rapprocher.
Ce qui est sûr, hein, c'est qu'il y en a un problème d'indépendance des autorités de régulation et que si ça passe peut-être au niveau municipal, on a l'espoir que ce soit des politiques qui gèrent les publicités et non pas des publicitaires qui gèrent les publicités. Sans plus attendre, je vais vous proposer de partir sur un autre sujet lié à la publicité, qui est aussi un sujet d'actualité et qui est évidemment le sujet qui nous touche le plus ici à Zoom Écologie, puisque, comme l'indique son nom, c'est une émission qui est consacrée aux questions écologiques et environnementales. C'est d'aller vers ce domaine des rapports entre publicité et écologie. Il y a de l'actualité là aussi. Puisque ça fait quelques années que parmi la mouvance anti-pub, il y a cette expression qui tourne de la volonté de faire une loi Evin Climat. Donc ça tourne chez les anti-pubs, ça tourne aussi chez les écologistes, les grandes associations étiquetées comme telles. Donc cette expression de loi Evin Climat qui sert à désigner le projet d'interdire les publicités pour certains produits climaticides particulièrement polluants. Et il se trouve que en 2020, très récemment, il y a quelques semaines, Greenpeace, le réseau Action Climat qui regroupe environ 120 associations écologistes et résistance à l'agression publicitaire, ont voulu donc prendre à bras le corps cette idée d'une loi Evin Climat et ont proposé donc un rapport qui donne des propositions précises qui ciblent des secteurs industriels qui sont à la fois de très gros pollueurs et de très gros annonceurs, c'est-à-dire des entreprises qui font beaucoup de publicité. Donc ce rapport, il est sorti la semaine dernière et il réclame l'interdiction de la publicité pour quatre domaines. Donc l'automobile individuelle, le transport aérien, les énergies fossiles et le transport maritime. Donc très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les voitures individuelles, les voitures de particuliers, donc ça exclut le transport en commun, les compagnies d'aviation, les fournisseurs d'électricité, de gaz ou d'essence et les compagnies de grande croisière, le transport pour le transport maritime. Donc tout ça, c'est des annonceurs de taille assez inégale hein, quand même, puisque pour ce qui est de l'automobile, c'est quand même un annonceur massif. Il fait souvent partie d'ailleurs, en France en tout cas, les trois plus gros annonceurs, c'est en général des marques de voitures. C'est peut-être plus massif que le transport maritime. En tout cas, ce sont les plus gros pollueurs. On remarque évidemment que c'est toujours ceux qui ont le plus gros usage des énergies fossiles. Et c'est pour ça qu'ils ont été ciblés. Donc l'idée d'une loi Evin Climat, c'est d'interdire la publicité pour ces annonceurs-là, sur le modèle donc, ce qu'on appelle la loi Evin, c'est-à-dire l'interdiction qui a eu lieu en 1991 de la publicité pour le tabac, Et à l'époque, pour l'alcool, ça devait aussi être interdit de publicité comme le tabac, sauf que ça a été progressivement détricoté. Nos auditeurs et nos auditrices voient sans doute tous les jours des pubs pour la vodka, pour les apéritifs anisés, pour la bière, surtout là en début d'été. On est absolument matraqués en ce moment, mais vous remarquerez que ces publicités, en général, ne mettent pas en scène des gens qui boivent. On n'a pas des superstars en train de se la coller en boîte, ça marcherait super bien, hein. Mais en fait ils n'ont pas le droit. S'ils le font pas, c'est pas qu'ils ne se sont pas dit que c'était bien de mettre Cardi B avec des Reebok en train de picoler de la vodka sur un pole dance. C'était surtout principalement parce qu'ils n'ont pas le droit. Donc dommage, ça fait sans doute moins vendre, quoique. Enfin, ils ont quand même le droit à faire de la publicité, mais vous pouvez remarquer qu'en général il n'y a pas de personnage, ou en tout cas pas de personnage qui boit. On a en général soit une bouteille seule, soit une bouteille avec quelqu'un qui n'est pas en train de boire, soit une évocation de, on va dire, l'origine du produit, genre typiquement un coteau de vigne pour un vin. Donc en France, on n'a pas le droit de faire de la publicité pour le tabac, on a le droit de faire de la publicité d'alcool dans certaines conditions. Donc c'est ça la loi Evin. Le but de résistance à cette alliance résistance à l'agression publicitaire Greenpeace et Réseau Action Climat, c'est que toute publicité sur tout support soit interdite pour ces annonceurs, donc voitures, énergie fossile, transport maritime et transport aérien, d'interdire la publicité pour ces, quel que soit le support pour ces annonceurs, et que cette consommation donc de ces produits dangereux, polluants, soit débanalisée. Donc le rapport est sorti la semaine dernière, donc pour une loi Evin Climat, vous pouvez le trouver facilement. Il a été pas mal repris dans les médias, et au même moment, il se trouve qu'il y a la Convention citoyenne pour le climat qui a publié ses résolutions, dont une qui va dans le sens d'une loi Evin Climat et qui va même un petit peu plus loin, puisqu'il s'oppose carrément à la pub dans l'espace public, en général, et aux écrans numériques en particulier. Donc une Convention citoyenne pour le climat qui a pris au sérieux cette question de la publicité. Il y a un autre élément de contexte qui fait que le thème est porteur, c'est la proposition de loi de certains députés pour réguler les publicités pour produits polluants. Donc il y a eu des appels pendant la discussion de la loi économie circulaire. Il y a eu une proposition du député ODS Mathieu L'Orphelin dans une proposition de loi où on trouve notamment l'interdiction progressive de la publicité pour les SUV, pour les produits électroménagers les plus consommateurs, pour les liaisons aériennes qui, en France, c'est-à-dire dont le temps est inférieur à 4h30, donc ce n'est pas toutes les liaisons aériennes, c'est celles qui pourraient être remplacées par le train. On y trouve aussi des mesures contre la publicité incitant à la mise au rebut au gaspillage, dans des articles assez vagues, hein, il faudra encore définir ce que ça veut dire une pub qui incite au gaspillage, mais on sent quand même qu'il y a une envie en ce moment, qu'il y a une crédibilité de ce sujet-là. Ruffin avait aussi fait une proposition l'an dernier contre la publicité dans les toilettes pour le droit de pisser tranquille. Je crois que c'était le titre de cette proposition de loi. Donc on voit quand même de plusieurs côtés, il y a une demande pour l'encadrement écologique de la publicité. Et ça, c'est aussi quelque chose, voilà, au-delà de ces travaux de grandes associations ou ces propositions de loi de députés, c'est aussi quelque chose qui vient de la société civile. Le 17 juin, dans le cadre de l'appel contre la réintoxication du monde, là, il y a eu énormément d'actions en France. Il y a eu des actions anti-pub organisées par XR, enfin, Extinction Rebellion, par ANV COP21, ou même par des collectifs indépendants. Donc ça vient d'eux et elles, hein, c'est pas des choses qu'on a fait ensemble. Et puis le 18 juin aussi, pour la sortie du rapport, Greenpeace avait organisé des recouvrements dans Paris. Donc on peut se dire quand même que de ce côté-là, il y a une appétence et qu'il y a un moment écologiste dans l'anti-pub qui s'agit de saisir. Et évidemment, j'invite tous les écologistes à prendre la parole, hein, sur ce sujet-là et à se positionner clairement. Et puisque on parle de cette actualité sur les rapports qui viennent de sortir, il y a aussi un autre rapport qui est sorti il y a quelques semaines, donc une grosse actualité sur la réflexion publicitaire. C'est un rapport qui s'appelle donc Big Corpo, encadrer la publicité et l'influence des multinationales, un impératif écologique et démocratique. Donc ce rapport, il a été écrit par Renaud, qui est aussi membre de Résistance à l'agression publicitaire, qui doit être avec nous au téléphone. Bonsoir Renaud.
Bonsoir.
Bonsoir Renaud, merci d'être avec nous. Donc Renaud, tu, euh, Tu es l'organisateur ou le meneur en tout cas du programme SPIM, Société publicitaire et influence des multinationales. Tu es membre d'Europe depuis de nombreuses années. Et donc, ce programme SPIM, il t'a mené à des recherches sur plusieurs années. Est-ce que tu peux nous présenter donc, ces recherches qu'est-ce qu'elles visaient en particulier sur évidemment la thématique de la publicité, mais qu'est-ce que tu voulais chercher de particulier à ce sujet?
Oui, eh bien, alors c'est effectivement un programme de recherche, d'études qui a été initié par RAP, par Résistance à l'agression publicitaire en 2016. Et toute l'idée, elle était de se pencher sur la problématique de la publicité, mais l'élargir à la communication des multinationales. Parce que quand on parle de surconsommation, par exemple, le marketing joue un rôle très important. Et techniquement, ce n'est pas de l'achat d'espace, ce n'est pas de la publicité. Ou encore, quand on parle de publicité corporate ou de communication corporate, c'est-à-dire quand une entreprise communique, mais qu'elle n'a aucun produit à vendre. En fait, elle vient juste protéger une réputation, typiquement le cas d'école d'un géant pétrolier qui vient montrer son engagement pour une société durable, par exemple. Ça, c'est de la publicité corporate. Donc, on voulait se pencher aussi là-dessus et même sur le lobbying, c'est-à-dire toutes les activités de communication et essayer de documenter ça vraiment du point de vue de l'expertise, c'est-à-dire des études qui se succèdent du côté des associations, et donc il y a 22 associations qui ont contribué, et des études menées par les chercheurs du milieu universitaire. Donc c'était ça l'idée du programme SPIM. Ça a mené un colloque en 2018 avec une quarantaine donc de chercheurs et de représentants associatifs. Et puis, le 9 juin dernier, on a pu publier un rapport assez épais, hein, 200 pages, mais qui a une synthèse de 25 pages. On a pu publier ça et donc poser sur la table le débat de la communication des multinationales.
Donc, quels sont les enjeux principaux que tu as pu mettre en avant avec ce rapport? Il parle d'écologie, il parle de démocratie. Pourquoi est-ce que ça te paraît être les impératifs les plus urgents?
Il y a quatre axes. C'est vrai qu'un titre, c'est toujours difficile pour résumer toute la réflexion qu'il y a eu dedans, mais vraiment, on a quatre grands axes de recherche, critiques, et sur lesquels, c'est aussi l'objet du rapport, on a des propositions à chaque fois, des propositions de réforme. Il y a l'axe de la communication commerciale. Dans tous ces axes, vraiment, la publicité joue un rôle central. Celui de la communication commerciale, c'est la publicité qui vend des produits, on dit la pub-produit, et le marketing. Ensuite, il y a vraiment tout ce qui est communication corporate, qui peut s'appuyer sur la publicité, mais c'est vraiment un enjeu de relations publiques. Et là, il s'agit de protéger une réputation ou encore faire directement du lobbying sur les décideurs. Et parfois, d'ailleurs, ce lobbying, il passe par les médias de masse et il influence l'opinion publique, comme le font encore une fois les pétroliers pour parler du changement climatique. Ça, c'est le deuxième enjeu, la com corporate, après la com commerciale. Et ensuite, il y a l'enjeu de comment l'achat d'espace publicitaire, quelle que soit sa fonction stratégique, finit par influencer les médias chez qui sont distribués la moitié quasiment de la publicité. Hein, elle est dans les médias ou encore sur Internet. Et c'est vrai qu'on a pu faire le point sur l'influence qu'a ce modèle économique des médias publicitaires sur leur ligne éditoriale. Et donc cette tendance à faire plus du buzz que d'informer en profondeur, à cette tendance à faire des suppléments en permanence comme cette semaine-ci, dans l'Obs, il y a beaucoup de suppléments pour des voitures, juste après la Convention citoyenne. Ou encore pour du côté d'Internet, donc les médias non traditionnels, vraiment là, toute la structure économique de l'Internet, qui est un grand dispositif de surveillance de masse, qui est organisé par les annonceurs. Donc ça, c'était le troisième enjeu, celui de l'économie de l'attention, de l'impact de l'achat d'espace sur Internet et les médias. Et le dernier, qui est presque une ouverture, mais on s'est posé la question dans tout ça, de la place des voix alternative de celle des ONG, de la mesure dans laquelle, ou des associations et en fait des mouvements sociaux, de la mesure dans laquelle les citoyens ont accès aux moyens de communication qui sont vraiment saturés par la publicité des entreprises. Donc voilà, les quatre grands axes, communication commerciale, communication corporate, économie de l'attention, médias internet, et enfin la communication des ONG. Et tout ça nous a mené à un ensemble de propositions qui devraient en théorie permettre de vraiment réguler la communication et l'influence des multinationales qui aujourd'hui disposent d'une hégémonie sur les moyens de com. La manière dont on appréhende cet enjeu, c'est que de manière presque urgente, évidemment, il faut mettre fin immédiatement aux pollutions directes que représentent les prospectus, un quart du papier consommé en France, les écrans publicitaires dans la rue ou encore même la pollution numérique de la publicité ciblée. Mais derrière, il y a vraiment des enjeux structurels. Et là, ça va être des batailles qui devront être livrées avec des victoires d'étape durant toute la décennie qui s'ouvre. C'est celle du contrôle des discours. Je crois que ça a été évoqué juste avant l'échange, mais c'est effectivement les annonceurs et les agences eux-mêmes qui contrôlent les discours. Donc, ça n'a pas un impact suffisant. Et par ailleurs, et ça, c'est peut-être probablement une innovation un peu de ce rapport Big Corpo, c'est celui de soulever l'enjeu économique et les outils économiques pour aborder ça. C'est-à-dire, on prouve, entre guillemets, mais sur la base d'études universitaires, notamment une étude récente en 2018, que plus de dépenses publicitaires égale plus de consommation au niveau de la population. Ça paraît évident, mais en fait, ça ne l'est pas. On croyait jusqu'à maintenant, la théorie classique veut que quand l'entreprise Citroën mène une campagne de publicité, elle ne fait que voler des parts de marché des consommateurs à Renault et à Peugeot. Or non, maintenant, les études montrent que Renault, Peugeot et Citroën, toutes leurs campagnes publicitaires cumulées, augmentent le nombre de consommateurs total. Bref, on peut presque prouver, entre guillemets, la création de besoins par la pub. Et donc, à partir du moment où on en arrive là, d'un point de vue écologique, on peut tout à fait comprendre la nécessité de devoir faire réduire un petit peu le marché publicitaire pour réduire cette consommation globale et le nombre de conteneurs qui arrivent chaque jour dans nos ports pour alimenter la population en biens obsolescents. Hein. Voilà à peu près le contenu du rapport.
Merci. Oui, donc une fois qu'on a démontré, qu'on a eu cette preuve que plus de pubs égale surconsommation et que donc il y a un vrai enjeu écologique, comment on fait pour cibler un autre problème écologique qui est cette question du blanchiment d'image? Tu évoquais tout à l'heure ce qu'on appelle la communication corporate, c'est-à-dire la communication de l'entreprise qui n'est pas directement adressée aux consommateurs potentiels, c'est-à-dire qui ne vise pas directement à faire vendre des produits, mais qui a pour but d'entretenir une image de marque ou une réputation. Et qui passe notamment par développer une image respectable. Je sais pas, moi, c'est Engie qui va nous faire des publicités mettant en scène les mouvements sociaux et les mouvements écologistes. On parlait tout à l'heure de publisexisme, c'est American Apparel qui vend des t-shirts This is what a feminist look like, voilà à quoi ressemble une féministe. Tous ces enjeux de blanchiment politique d'image. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ces choses qui semblent beaucoup plus diffuses finalement? Comment tu as identifié ces enjeux de responsabilité des entreprises vis-à-vis des questions sociales et politiques et écologiques?
Alors la réponse, elle se situe dans le même secteur que celui de la réponse au discours qui incite à la surconsommation. C'est le contrôle des contenus. C'est la nécessité d'un organe qui puisse dire, voilà, cette pub, elle passe, cette pub, elle passe pas. Et un organe, évidemment, qui soit indépendant des annonceurs pour mener cette mission, mais aussi indépendant des gouvernements, c'est important, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie que le système partisan vienne nous dire quelle pub est bonne ou quelle pub n'est pas bonne. Donc, il nous faut un organe du type CSA ou du type CNIL, c'est-à-dire une autorité indépendante. C'est comme ça qu'on peut aborder le problème de la communication corporate, mais effectivement, c'est différent quelque peu de l'incitation à la surconsommation. Là, on est plutôt dans le problème du mensonge. Est-ce que le contenu de la publicité ou du support de communication, est-ce que ce qu'il décrit correspond bien à une réalité? Donc, la réalité peut être celle du produit. Donc, voilà, on explique que tel café est équitable, ce qui implique que tout le circuit de la chaîne de valeur et de production rémunère correctement les petits producteurs. Et donc ça, il faut aller le vérifier. Il ne suffit pas de l'annoncer. À l'heure actuelle, on peut tout à fait l'annoncer, en même temps réduire les salaires des petits producteurs. Ça ne pose aucun problème technique et légal. Donc là, la question vraiment, c'est celle d'aller vérifier. Et puis, il y a vraiment le blanchiment d'image purement corporate, où on parle même plus d'aucun produit. Là, on pense par exemple à Areva, qui n'a absolument rien à vendre, qui fait du nucléaire. Pourtant, ils font des campagnes de pub régulières. Et il s'agit, encore une fois, de protéger une réputation. Alors pourquoi ils investissent tant d'argent pour protéger leur réputation? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, l'image de marque a une valeur financière. On peut la déterminer. C'est-à-dire que toute entreprise cotée en bourse a une valeur. C'est sa comptabilité qui la donne. Il y a des bâtiments, des ordinateurs et des ressources humaines. Eh bien, aujourd'hui, la valeur de l'image de marque, elle est comptabilisée. On peut la mesurer. Et bon, une entreprise comme Apple, par exemple, il y a près d'un tiers de sa valeur qui relève de l'image de marque au moment de la vente. Donc, c'est très important. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils font de la communication corporate, parce que s'ils ont affaire à un scandale, la valeur de leur image de marque peut s'effondrer immédiatement. Donc ça peut leur revenir très cher. C'est pour ça qu'il faut communiquer pour, entre guillemets, s'offrir une assurance vie au moment de, du scandale. Et donc, on pourra réagir et avoir une image de marque qui tient mieux, on va dire, en bourse.
C'est un investissement, en fait. C'est un investissement. Au lieu d'investir aujourd'hui, disons, dans des infrastructures saines ou moins polluées, ou au lieu d'investir dans les salaires de leurs employés ou de leurs travailleurs productifs, ils investissent dans les salaires de leurs travailleurs de la communication pour se prémunir en cas d'attaque.
C'est ça. Ils investissent aussi dans l'achat d'espace qui coûte très cher. Et dans différents événements, il y a des montants colossaux qui ont été mis sur la table pour pouvoir sponsoriser la COP21. Mais quelle puissance d'avoir sponsorisé la COP21 quand on est un géant des énergies fossiles. Ça permet de rassurer les politiques sur l'engagement dans la lutte contre le changement climatique, de rassurer la population, de rassurer les partenaires, les syndicats, les sous-traitants. Il y a tout un ensemble de parties prenantes qui sont visées par cette communication corporate. Et donc, il y a quand même des solutions. On revient à ce problème de la régulation des contenus, sauf que là, il ne s'agit pas simplement d'avoir simplement des articles de loi, comme ça a été proposé récemment, c'est toujours pas le cas, mais en gros, des articles de loi qui expliquent ce que c'est qu'une incitation à la surconsommation. Là, on est dans le blanchiment d'image, c'est-à-dire les pratiques commerciales trompeuses. Les articles existent, sauf qu'aujourd'hui, la manière dont c'est appliqué, là, en l'occurrence, ce n'est pas entièrement autorégulé, le juge peut intervenir, et même une direction de la DGCCRF au ministère de l'Économie peut intervenir. Voilà, mais ça, c'est la théorie. La réalité, c'est que concrètement, les pratiques commerciales corrompues, aujourd'hui, ça sert à contrôler si la liste des ingrédients qui sont sur le pot de yaourt correspond bien à la composition du pot de yaourt. Donc, c'est vraiment très physique, presque chimique et économique. Par contre, si une entreprise comme Total se positionne par de l'achat d'espace, par de la publicité, comme un leader dans le monde des renouvelables, alors que on voit, par exemple, dans leurs assemblées générales, que les propositions pour faire évoluer le modèle sont refusées. On voit que leur lobby à Bruxelles va directement contre des engagements de la France. Donc on a des éléments pour montrer que Total se positionne en contre de la lutte contre le changement climatique. Eh bien, aujourd'hui, s'ils font de l'achat d'espace, de la pub pour expliquer qu'ils sont engagés pour une énergie meilleure, qui est le nom de leur campagne, le juge ne peut pas, ne se donne pas en tout cas les moyens de le condamner. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on a voulu avancer, une réforme des pratiques commerciales trompeuses pour que clairement on puisse juger un petit peu de la conformité de ces allégations avec la réalité de l'entreprise. Et par ailleurs, il y a un processus dans lequel la France peut être fière d'elle parce qu'elle est pionnière dans le monde, c'est celui de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Les multinationales, depuis 2 ans en France, sont obligées de rendre des comptes pour prévenir les éventuels risques de violation des droits de l'homme ou de pollution environnementale. Donc ça, c'est assez nouveau. Elles doivent rendre des comptes avant même que le risque ait pointé le bout de son nez. Et c'est sur cette base-là qu'on doit pouvoir améliorer les pratiques commerciales trompeuses. Donc, sans devenir trop technique, il y a aujourd'hui en France une nouvelle responsabilité qui incombe aux multinationales pour montrer qu'elles ne vont pas faire de dégâts. Et le blanchiment d'image doit s'appuyer sur cette dynamique pionnière pour enfin sortir de la composition du pot de yaourt et vraiment aller voir ces discours sociétaux que les entreprises diffusent à coups de médias de masse.
Oui, alors on voit qu'il y a quand même un petit peu plus par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le sexisme avec Tiki. Il y a quand même un petit peu plus de recours que lorsqu'on n'a que la RPP pour se plaindre. Juste rapidement, avant de se quitter... Pour les consommateurs, tout ça, c'est vrai que c'est un peu technique, mais ce que voient les consommateurs en premier, c'est la question des labels. Souvent, quand ils doivent choisir justement leur pot de yaourt et leur café équitable, les labels, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, qu'ils ne sont pas forcément bien surveillés ou qu'en tout cas, ils sont détricotés au fur et à mesure. Est-ce que Renaud, tu as un truc à nous dire sur cet usage du label par les grandes entreprises ? Est-ce que c'est quelque chose de fiable ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez des propositions à SPIM ?
Alors, on n'a pas particulièrement approfondi ce point, mais il y a néanmoins des choses à dire. Et je crois qu'on peut être heureux que la Convention citoyenne pour le climat se soit positionnée sur le sujet. Incontestablement, aujourd'hui, faire un label, c'est une initiative que n'importe qui peut prendre. Et si les parties prenantes font marche, se revendiquent de ce label, ça y est, ça a pris. Donc, autant dire que les grandes entreprises et les grandes industries ont multiplié les labels factices dans lesquels le cahier des charges les arrange totalement. Donc, il n'y a aucun filtre pour savoir si un label est solide ou pas solide. Et quand on est un consommateur, on ne peut pas se spécialiser dans tous les articles de consommation. Donc, c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. La Convention citoyenne a clarifié ce point en disant qu'il faudrait, entre guillemets, avoir une sorte d'autorisation, un petit filtre qui permette de créer un label ou voilà, d'avoir un regard des pouvoirs publics sur cette création de label. À mon sens, ça va dans la bonne direction. C'est vrai que là, il y a un vrai sujet, parce que les entreprises ayant des vrais moyens à mettre dans la communication, elles peuvent constamment se mettre à jour avec des nouveaux labels et perdre le consommateur. Donc là, je pense qu'il faut suivre le dossier de la Convention citoyenne, qui a quand même mis pas mal de propositions intéressantes sur la table, à voir ce qu'en fera l'exécutif. Et là, c'est un point à suivre de près, oui.
Merci Renaud. Je crois qu'il y avait aussi Benoît qui avait une question à t'adresser.
Ouais.
Non, désolé.
Ah, non, pardon.
Moi, je voulais juste faire un tout petit point sur les...
Ah, bah vas-y, je laisse la parole à Benoît qui avait quelque chose à dire, en tout cas.
Oui, excuse-moi. Non, c'était sur les municipales. C'est vrai qu'on a fait un point qui était très... le vote, qu'est-ce qu'on peut faire par le vote? On s'est beaucoup penché là-dessus. Mais juste rajouter qu'à RAP, on considère que ce n'est pas le seul moyen de changer les choses et on bouge avec des actions dans nos groupes locaux un peu partout en France. Donc, rejoignez-nous, même d'ici les 6 années qui nous séparent des prochaines élections, on va faire pas mal de choses pour faire en sorte que ça évolue.
Ok, merci voilà, Benoît. Bien sûr, c'était un appel quand même, puisque évidemment aussi un début de cette émission, c'était de se réunir autour de cet asso qui nous réunit, Résistance à l'agression publicitaire, qu'on désigne depuis tout à l'heure par RAP. C'est une association qui existe depuis 92 et qui lutte contre les effets néfastes de la publicité. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur cette association. On a parlé des municipales, on a parlé de la loi et des propositions de loi 20 climat, on a parlé du rapport Bicorpo, donc je cite encore le titre, Bicorpo, encadrer la publicité et l'influence des multinationales, un impératif écologique et démocratique. Il est sorti début juin, et merci Renaud d'avoir été avec nous pour en parler. Et on a parlé aussi de l'Observatoire de la publicité sexiste avec Tiki, un rapport qui est en cours d'écriture et qui devrait sortir normalement début octobre prochain. Donc une affaire à suivre. Et on va se quitter sur ces belles paroles. On va se quitter en musique, bien sûr. Vous avez écouté l'émission Zoom Écologie présentée par Culture Poub sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et comme on a beaucoup parlé de greenwashing pour finir cette émission, je vous propose de se quitter en musique avec MC Duval, le blabla durable. Bonne soirée!
Savoir à quoi ressemblera le monde dans 10 ans. Asseyez-vous sur mon divan, je sors ma boule en cristal durable. Voilà le tableau du futur probable. On aura des centrales nucléaires durables qui produiront des déchets atomiques durables. On aura des ghettos durables, des CRS durables, une politique ultra sécuritaire durable avec des puces RFID durables partout. Tout sera fiché dans des data centers durables. Les incinérateurs d'ordures durables valoriseront les déchets en dioxine durable, sur des millions d'hectares de monoculture durable, de toutes les surfaces de terres cultivables, des pays en voie de développement durable, il n'y aura que du soja OGM durable, pour faire le biocarburant des 4x4 durables, qui sur des 4x4 voies éco-compatibles, autour des mégapoles éco-responsables, vont faire monter l'effet de serre durable.
C'est le blabla durable des communicants minables, des publicitaires experts en greenwashing.
La sécu, les retraites, c'était pas durable. Les services publics non plus, c'était pas durable. On va plutôt investir dans les tasers durables. Et les pauvres, on les mettra dans des prisons durables. On va mettre aux frontières des barbelés durables. On va expulser un bail en charter durable. On aura que des mutuelles chères, mais durables. Pour nos Alzheimer durables, nos chimios durables. On continuera à mettre nos milliards durables dans les budgets colossaux de nos armées durables, grâce auxquelles on maintiendra des dictatures durables pour continuer en Afrique, le pillage durable, déforestation, désertification durable, tous les ingrédients d'une bonne famine durable, à les entendre polluer moins, c'est sauver la terre, voilà l'équation, cherchez l'erreur.
C'est le blabla durable des communicants minables, des publicitaires experts en greenwashing. C'est le blabla durable, c'est le blabla.
on va faire des déchets de plutonium vitrifié qui vont durer 20 millions au lieu de 30 millions d'années. On va mettre des géraniums sur les radars. On va chanter tous ensemble. No more marée noire. 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 Yann Arthus, Bertrand et Nicolas Hulot iront dans leur ministère en hélico durable. Et pour leurs efforts louables, Nestlé, Total, Areva et Aventi seront un prix Nobel. Prix Nobel de quoi? Mais t'as pas suivi ou quoi? Prix Nobel du fameux développement durable. On va se racheter le droit d'émettre du CO2 sur les marchés boursiers et de l'économie durable. Les pollueurs payeurs vont faire des hôpitaux et soutenir les fondations pour un monde durable. Mais quand tu as grandi vers la Vera ou Panto, tu sais que certains méfaits sont pas réversibles.
C'est pas blabla, 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 blabla.